30 ans d'expérience.
Ouais.
Et aujourd'hui, je ne trouve pas parce que on me dit que j'ai trop d'expérience. Mm-hmm. Donc c'est alors moi, d'abord c'est je voulais rebondir. Alors je suis complètement d'accord avec l'auditeur qui vient de passer déjà. Mm-hmm. La personne que vous avez eue de France Travail qui dit qu'il a un portefeuille client de 750 personnes, mm-hmm. j'aurais juste à savoir ce qu'il fait en fait. Moi, en un an, on m'a proposé une annonce et en plus pas de bol, c'est une annonce à laquelle j'avais déjà postulé. Donc en fait, en un an, une annonce. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est... Et après, on dit qu'on ne veut pas trouver de travail. Mais moi, je postule sur toutes les plateformes, Hello Work, Indeed et tout. Je fais à peu près 10 annonces par jour et je ne trouve rien. Et c'est parce que j'ai trop d'expérience. C'est qu'est-ce qu'on a avec eux, en fait.
Et Nicolas, c'est vrai que si la proposition de Gérald Darmanin passait, là, aujourd'hui, vous n'auriez plus rien.
Ah bah, de toute façon, moi, ça s'arrête dans un mois et demi. On n'est même pas capable de me dire combien... Je sais, moi j'ai calculé moi-même, mais j'aimerais bien que France Travail me dise, bah voilà, au 15 juillet, vous perdez vos droits, vous allez toucher entre 750 et 800 euros. Ouais. Je vis plus, hein. C'est clair, hein, je vis plus. C'est compliqué, franchement. Et j'étais au chômage il y a 20 ans, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, c'était différent. On touchait 70% de son salaire brut, et on arrivait sur 2 ans, on avait 2 ans, et on arrivait. Et moi, je me suis relancé grâce à ça. Là, c'est pas possible, en fait. On ne donne aucun élément pour se relancer, en fait. On est abandonné, complètement abandonné, je peux vous le dire.
Parce qu'il y a pas assez ils font bien leur travail, mais il n'y a pas assez de conseillers, bien sûr, France Travail. Et vous le dites, Nicolas, vous avez 30 ans d'expérience, vous avez 56 ans, et c'est sûr que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver un boulot à 56 ans et quand on est surdiplômé. Mais merci en tout cas, Nicolas, pour ce témoignage. Voilà, on comprend bien que effectivement la proposition de Gérald Darmanin, elle est quand même compliquée à mettre en place. Rémi, ça donne quoi sur le sondage? La question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Ouais, passer de 18, oui, à 9 mois d'indemnisation. Pour ou contre, c'est le contre qui l'emporte, mais d'une courte tête. Pour 51% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h30-9h. Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1. Aujourd'hui, c'est vendredi 13.
Sur RMC, gagnez jusqu'à 13 000 euros.
Pour jouer, envoyez chance par SMS au 732-16. Chance au 732-16.
Aujourd'hui, provoquez la chance sur RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour. 21 millions d'euros, c'est le patrimoine du ministre de l'économie Éric Lombard. Une fortune très importante pour le locataire de Bercy, mais moins que celle de Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, qui lui s'affiche à 23 millions d'euros. Rémi, on peut le dire, nous avons actuellement le gouvernement le plus riche de l'histoire.
Oui, et la tendance ne fait que s'accentuer depuis 2017. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les ministres sont de plus en plus riches. Le gouvernement actuel compte 22 millionnaires sur 36 membres, d'après leur déclaration d'intérêt et de patrimoine rendue publique par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. D'après les calculs du journal Le Monde, les ministres du gouvernement Bayrou possèdent un patrimoine moyen de 2 900 000 euros, une moyenne presque deux fois supérieure, par exemple, au gouvernement Borne de Deville 2022, ce qui place donc le gouvernement actuel parmi les plus riches depuis que les déclarations de transparence sont imposées aux ministres, donc depuis 2014. En deuxième position, on retrouve le ministre de l'économie, tu l'as dit, Éric Lombard, hein, qui a 21,7 millions d'euros de patrimoine, dont quelques 8 millions sont issus de 4 biens immobiliers. Et en tête, Marc Ferracci, ministre en charge de l'industrie et de l'énergie, 23 millions d'euros, principalement constitués de parts non cotées dans Icar Finance, une entreprise d'expertise comptable dirigée par son père, dont il détient 35% du capital. Si ces deux patrimoines exceptionnellement élevés tirent la moyenne vers le haut, le gouvernement Bayrou se situe en tout cas dans son ensemble largement au-dessus de ses prédécesseurs, avec un patrimoine médian net de 1 100 000 euros.
C'est-à-dire qu'il y a la moitié des ministres au-dessus, la moitié des ministres en dessous. Voilà. Plus de 20 millions de patrimoine pour deux ministres. Est-ce que ça vous choque, Jérôme Lavrieux ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Moi, dès lors qu'ils avaient cet argent avant de rentrer au gouvernement...
Oui, bah encore heureux.
Ah, attends, je finis. C'est que ça n'est pas leur passage au gouvernement qui leur permette de s'enrichir après, en allant faire des conférences sur la moitié de la planète ou en utilisant son carnet d'adresses acquis pendant le passage au gouvernement. Ça me choque. Ça. Et en plus, quand tu compares au gouvernement américain, c'est des petits joueurs.
Oui, bah,
franchement, c'est des petits joueurs.
Mais est-ce que tu es encore connecté à la réalité quand tu es ministre de l'économie et que tu as 20 millions de patrimoine ? C'est ça la question.
Oui, mais est-ce que on doit être forcément au SMIC pour être au gouvernement ? Est-ce que ça ferait un gouvernement plus efficace ou pas plus efficace ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils sont efficaces pour gérer les problèmes dont ils ont à s'occuper. Qu'un ministre de l'économie... Moi, je suis plutôt rassuré qu'un ministre de l'économie, dans son passé, ait plutôt augmenté son patrimoine qu'un ministre de l'économie qui a fait faillite 12 fois et qui arrive complètement dans les choux. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui a été au gouvernement, et dont le papa était concessionnaire, avait plusieurs concessions automobiles. Il est mort d'un cancer. Il s'est retrouvé à hériter de l'entreprise. Il a eu deux choix. Soit il liquidait l'entreprise, soit il reprenait l'entreprise. Ipso facto, il se retrouve, parce que c'est un patrimoine professionnel, multimillionnaire. Il dit, mais c'est pas mon argent, puisque j'ai refusé de vendre l'entreprise. Et du coup, on va m'interdire, alors que j'étais déjà élu avant. Ça n'a aucun sens. Moi, je préfère des gens qui savent faire un peu d'argent pour diriger le pays que des gens qui ne savent pas en faire du tout.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que vous dites c'est quand même un problème ou alors vous dites finalement, c'est leur argent et ce qui compte, c'est leur compétence et pas leur compte en banque, sachant que Éric Lombard, c'est surtout de l'immobilier. Il a une maison à Paris, il a des parts dans un appartement et il a une maison de vacances dans le Morbihan. Donc, il paye évidemment des taxes foncières et de la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire.
Alors, oui, moi, je pense que c'est un problème. Par ailleurs, sur les compétences qui leur auraient permis d'acquérir toute cette fortune, c'est quand même beaucoup de l'argent familial. Hein, donc c'est une bonne naissance qui aide.
Pour Éric Lombard.
Oui, alors je pense quand même que quand on peut acheter autant de propriétés, on est aidé à un moment au départ, tout le monde n'a pas cette capacité. Et moi, je pose la question ensuite de la représentativité. On avait tout à l'heure quelqu'un qui disait, mais ils annoncent des choses sur les chômeurs, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de se retrouver en difficulté, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de se dire à la fin du mois, je n'ai peut-être plus de logement. Je ne dis pas qu'il faut forcément l'avoir vécu, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai plus confiance en un ministre de la Santé qui connaît la réalité de l'hôpital que dans quelqu'un qui n'y a jamais été. Et par ailleurs, là, si je regarde les sujets de l'émission, on a parlé on va parler des chômeurs, on va parler des étudiants, de comment faire des économies sur les chômeurs, les étudiants. Et puis à côté de ça, on ne parle pas de la taxation des multimillionnaires.
Là, il y a ce sera dans le zapping.
On en parlera. Oui, mais en tout cas, mais on va dire aussi que le gouvernement s'y est immédiatement opposé. Et donc, il y a un soupçon énorme de conflit d'intérêts. Pour qui font-ils la politique ? Si on regarde les paquets fiscaux qui ont été donnés, donc il y a une flat tax sur les revenus du capitaux, il y a une suppression de l'ISF, il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés. Moi, je suis classe moyenne.
Ils n'étaient pas ministres à ce moment-là.
Oui, mais en tout cas,
ils sont ministres au moment où on retaxe justement les hauts revenus.
Ils sont ministres sous le gouvernement qui a dit non, on ne taxera pas les centimillionnaires. Moi, je suis classe moyenne. Les impôts que je paye, c'est la TVA, l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien eu. Et donc, en fait, quand on a des millionnaires qui font des politiques qui profitent aux plus riches, il y a un soupçon de conflit d'intérêts et qui sont tout le temps en train de pointer du doigt les chômeurs, les étudiants, les plus précaires. Ça pose problème et ça pose un problème de confiance dans le gouvernement et dans la politique.
Fred Hermel, est-ce que vous pensez en fait, il y a beaucoup de Français qui disent que les politiques sont totalement déconnectées. Est-ce qu'on peut encore être au fait de ce qui se passe sur le terrain quand on a un patrimoine de plus de 20 millions d'euros ?
C'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir être ministre, il va falloir gagner au moins de 2000 euros, par exemple ? Il faut avoir un patrimoine à combien ? Enfin, c'est tellement ridicule. C'est ce genre de critères qui sont totalement ridicules. On prend des gens pour leurs compétences, pas pour leur portefeuille. Voilà. Mais je trouve ça très intéressant qu'en France, on se pose la question. C'est parce que nous sommes un vieux pays catholique. Et c'est là où on voit, on reste un vieux pays catholique qui a un problème avec l'argent. Dans une société anglo-saxonne, donc protestante...
On se pose la question. Hein.
On se pose même pas la question. Dans une société protestante, on ne se pose pas la question. Chez nous, on reste un vieux pays catholique, c'est comme ça. On a un rapport bizarre à l'argent en France.
Non, mais
on n'aime pas les gens qui ont de l'argent.
Non, mais voilà. Tu peux te poser la question quand même. Tu te dis, voilà, est-ce que 20 millions d'euros, est-ce que 20 millions d'euros, tu peux aujourd'hui, par exemple, savoir ce que c'est que d'être au RSA, d'être au chômage, d'être classe moyenne, de toucher le SMIC. Et donc, quand tu fais aujourd'hui des politiques, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu dis, tiens, il faut une année blanche, typiquement, il ne faut pas augmenter le SMIC, il ne faut pas augmenter les pensions de retraite. Est-ce que tu peux vraiment prendre ces décisions aujourd'hui et comprendre ces décisions quand tu as un patrimoine de plus de 20 millions d'euros?
Quand tu es compétent, oui. Parce que ta vie n'est pas le seul indicateur pour prendre des décisions. Tu as des gens, tu as des relais, t'as des conseillers, t'as des préfets qui font remonter les informations, t'as tout. Enfin, tu vois, enfin, t'as des partenaires sociaux, t'as tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un ministre ne décide pas seul.
Mais reste qu'aujourd'hui, il cherche essentiellement à faire des économies sur la classe, sur le dos des plus vulnérables. Donc, ça pose des questions. Ils ne vont pas chercher l'argent qui est envoyé dans les holdings par les multimilliardaires. Ouais.
Eh ben alors, il y en a un qui peut pas se présenter à la présidentielle parce qu'il était lors d'une dernière campagne présidentielle l'un de ceux qui avait les plus gros patrimoines. C'est Jean-Luc Mélenchon.
Exactement.
Il est disqualifié pour s'occuper des gens qui gagnent le SMIC.
Je ne dis pas qu'il faut interdire. Je ne dis pas qu'il faut un patrimoine qu'il faut interdire. Je dis simplement que ça soulève une question de conflit d'intérêt. Et quand on a des millionnaires qui font une politique qui profite essentiellement aux millionnaires, on peut se dire qu'ils ne font pas ces choix-là pour l'intérêt public, mais pour leurs intérêts à eux.
Alors, ça donne quoi sur l'appli RMC, Rémi? Est-ce que c'est aussi clivant que sur le plateau?
Absolument, et c'est très clivant. Je vais vous lire deux messages pour l'illustrer. Celui de Nicolas: bonjour, malheureusement, pour moi c'est choquant, car c'est patrimoine des ministres, parce qu'ils sont loin de ressentir ce que la population de base vit au quotidien. Ils ne connaissent pas les fins de mois difficiles. Bon, ça c'est l'avis de Nicolas. Et au contraire, Samira nous dit: bonjour, moi je ne suis pas choqué par les patrimoines des ministres. Je ne les envie même pas, je demande juste à vivre décemment. Chacun a le patrimoine qu'il a. Je suis plus préoccupé par les résultats du travail du gouvernement.
Oui, beaucoup de Français sont préoccupés par ce résultat. Stéphanie est avec nous, elle nous appelle de Haute-Saône, elle est fonctionnaire territoriale. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Vous avez un devoir de réserve ou pas en tant que fonctionnaire?
Je me l'impose.
Écoutez, très bien. Est-ce que ça vous choque, vous, effectivement, de voir deux ministres avec un patrimoine de plus de 20 millions d'euros?
Personnellement, non, ça ne me choque pas. Tant que ça, à partir du moment où on a la transparence de savoir comment ils l'ont obtenu. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est du patrimoine qui a été obtenu par héritage, par famille, par un travail qu'ils ont pu occuper à côté de leur mandat, ça ne me choque pas du tout, c'est le fruit de leur travail ou c'est le fruit de leur bonne gestion du patrimoine familial. Par contre, si on se retrouve sur des patrimoines qui ont été cumulés uniquement pendant les mandatures, forcément, on va se poser la question et on va se dire, il y a envie sous roche.
Ouais, il y a conflit d'intérêts. C'est exactement ce que disait Jérôme Lavrieux. Mais justement, Jérôme, est-ce que c'est normal, finalement, qu'on connaisse, dans le détail, tout le patrimoine des ministres, du président de la République? Je l'entends, des élus, je l'entends, mais les ministres, ils sont nommés, ils ne sont pas élus.
Oui, ben enfin, ils dirigent le pays.
Bien sûr.
Et là où je te rejoins, c'est que ça permet... Cette déclaration, elle est récente. Je veux dire, ça va jusqu'à la voiture, le leasing de la voiture. Moi, j'ai été député européen, j'étais obligé de la faire, ma déclaration de patrimoine. Le seul placement que j'avais, c'était 30 actions de la SCI de mon père pour une valeur de 30 euros.
Quel risque tu es.
J'étais un gros actionnaire. J'étais obligé de le déclarer. Mais ça ne me gêne pas du tout. Parce que c'est ce qui permet de prévenir le conflit d'intérêts. Pendant des décennies, on ne savait pas qui avait quoi. Ouais. Qui connaissait la fortune de Mitterrand? Qui connaissait la fortune de Giscard?
Personne.
Qui connaissait la fortune de son ministre de l'économie? Maintenant, même quand tu es directeur de général d'une collectivité, tu es obligé de faire cette déclaration de patrimoine. Et c'est pas mal de le faire. Hein. Donc ça permet justement de prévenir les conflits d'intérêts. On sait que M. Lombard ou M. Ferracci, s'il prend une décision qui est favorable au domaine dans lequel il est, il ne pourra même pas signer les décrets. Parce qu'il va être regardé et ausculté par tout le monde. Donc on ne peut pas dire « Ah, tout ça c'est un scandale » et dire « La transparence amène à critiquer ces gens-là ». Non, ils sont plus transparents que n'importe qui.
Merci en tout cas Stéphanie d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à ce débat. Ça donne quoi au niveau du sondage, Rémi?
On vous a posé la question de plus de 20 millions d'euros de patrimoine pour deux ministres. Est-ce que ça vous choque? Bah oui, c'est choquant pour une forte majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ils sont quasiment les trois quarts à être choqués, hein, 74%.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel, et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Retrouvez BFM TV sur le canal 13. Pour une info toujours plus riche, faites le 13. Pour une info toujours plus indépendante, faites le 13. Pour une info partout, tout le temps, sur tous les terrains, faites le 13. Pour une info à votre image, faites le 13. Pour l'info, faites le 13.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
Deux heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, Estelle Midi.
Tu préfères.
C'est un tu préfères culinaire aujourd'hui. Et c'est pas facile. Tu préfères apéro dînatoire ou dîner classique. Anne-Sophie Saint-Père.
Apéro dînatoire sans hésiter. Pour une fois, je n'hésite pas.
Mais pourquoi ?
Mais j'adore les apéros dînatoires. On peut manger plein de trucs hyper variés, plein de gens ramènent des choses. C'est moins formel, on mange plus longtemps, on peut arriver à n'importe quel moment, donc c'est plus ouvert.
Pour ça, on peut arriver à n'importe quel moment.
Oh ouais, bah parce que des fois, si je finis tard pour un dîner, je vais arriver en retard, alors que là, l'apéro, je me sens moins coupable parce que j'aurais pas raté les entrées. Donc,
génération, ça.
Ouais, le côté flexible. Moi, j'aime bien le côté flexible de l'apéro.
On prend ce qu'on veut quand on veut.
C'est ça.
Règles.
On n'a plus de règles, on mange du sucré, puis du salé. Puis, ouais, voilà, doigts. C'est ça. Quoi.
Avec les doigts, bien sûr.
Avec les doigts, oui. évidemment.
Ah, évidemment, c'est du snacking, quoi. Souvent, c'est quand même pas de très bonne qualité, tu vois ce que je veux
dire. Et bah, ça dépend, parce qu'à force de faire des apéros dînatoires, on commence à développer des petites.
Trois bouts de carottes, du saucisson, tu manges
pas. Mais pas du tout, on peut faire des petites quiches, des petits cakes aux olives, des. Oh. Non, il y a plein. Ouais. Mais non, mais c'est ça.
L'horreur, les cakes aux olives.
Ah, si, c'est bon, les cakes aux olives.
En vrai, je suis pas hyper fan des cakes aux olives, mais c'est le premier truc qui m'est passé par la tête, écoutez. Voilà, c'est...
Évidemment, Frédéric, je vous regarde et je sais que vous. Frédéric, je vous appelle Frédéric parce que je sais que l'heure est grave. Vous détestez évidemment les apéros dînatoires, j'imagine.
Moi, je suis pas fan. Hein.
Bah, oui, ouais,
moi, c'est bien prévisible.
Et j'aime bien les dîners avec une nappe et tout. Enfin, pour moi, le dîner, c'est cérémonial. Quoi. Il y a un rythme. J'aime beaucoup. Et puis, j'aime qu'il y ait entrée, plat, dessert, fromage, dessert. J'aime bien ça. Et justement, ce que tu disais. Me donne des arguments. On arrive quand on veut. Ben non, un dîner, il y a un horaire à respecter parce qu'on commence tous ensemble. Et c'est pas bien d'arriver parce que quand il y a un trou à la table, ça se voit. Donc je trouve que.
Nous, c'est plus ouvert. C'est l'art de des invités l'art de surprises.
Et l'art de la politesse de dîner. Voilà, moi j'adore les dîners. J'adore organiser des dîners. Enfin, je trouve ça.
Mais tu pourrais organiser des apéros dînatoires, faire des petites verrines, tu vois.
Oh non,
après c'est vrai que les apéros dînatoires c'est surtout sur la table basse. C'est mieux sur la table basse que sur la table à manger, tu vois.
Et il y a un problème.
C'est
quand on fait attention à sa ligne, les apéros dînatoires sont terribles parce que tu manges beaucoup plus.
Oui, enfin si tu manges une blanquette de veau au dîner.
Non, mais est-ce que tu penses que tu ne manges rien et en fait tu te goinfres de plein de trucs et tu grossis.
Et souvent c'est quand même pas très bon. Jérôme Lavrieux, apéro dînatoire ou dîner classique?
Question simple, réponse complexe. Ah. Je préfère apéro dînatoire chez moi.
D'accord.
Pour une raison simple, c'est que alors que j'adore dresser la table, moi je peux passer des heures à dresser la table avec les verres qu'il faut, les couverts, faire des très belles tables, j'adore. Mais quand c'est chez moi, je me fais chier au moment du dîner. Parce que entrée, plat, dessert, machin, je trouve ça chiant. J'adore aller dîner au restaurant. J'adore aller dîner au restaurant. Chez moi, et pour une autre raison, c'est que quand tu es en couple... Il y en a toujours un des deux qui fait le dîner quand tu fais le dîner.
Et c'est toujours le même. Hein.
Et c'est toujours la même.
Bien sûr. Oui.
Souvent.
Aussi. Oui, c'est globalement. C'est vrai,
la charge mentale du dîner, ça repose toujours sur.
Oui, mais normalement, c'est la femme qui fait le dîner, mais c'est le mec qui débarrasse et qui met la table.
Ouais, mais c'est elle quand qui même. Reste en cuisine pendant que les invités sont là,
oui,
qui fait
vrai.
Les allers-retours, etc. Donc, les apéros dînatoires, moi j'aime bien, c'est l'été en fait, les apéros dînatoires. Tu fais des grands plateaux avec plein de trucs, on n'est pas obligé de manger du cake aux olives ou je ne sais pas quoi.
Non, pas ce cake aux olives, j'aurais pas dû en parler.
Tu ouvres un petit bocal de foie gras qui coûte pas une fortune parce que tu as un petit producteur. Tu as quelques truffes que tu as mis en conserve du mois de décembre. Tu fais un pain toasté, une petite truffe, un petit
beurre. Ah oui, là c'est. Ouais, alors d'accord.
Non, mais c'est d'accord.
Non, mais d'accord, mais là, c'est l'apéro dînatoire hyper gradé. Excuse-moi, normalement, c'est des carottes et du saucisson et trois bouts de fromage.
Comme dirait Jean-Pierre Coff ou Perico Légas, t'es pas obligé de manger de la merde quand tu fais un apéro dînatoire. Tu le fais avec l'intention de faire quelque chose de bien pour tes convives. Tu sors deux, trois bonnes bouteilles de vin, chacun prend ce qu'il veut, comme il veut, etc. T'es pas obligé d'être expédié, t'es pas obligé d'ouvrir ton sachet de surimi avec de la vieille mayo qui traînait dans ton truc. Ça, c'est dégueulasse.
Ah si, ah bah il faut des surimi.
Moi, je suis dans une région où on adore bien manger. Et ça, tu peux le faire. Et puis, il y a des moments où c'est bien de faire un dîner plus formel.
De fromage.
Mais je ne suis pas sûr qu'il faille opposer les deux.
Il faut des apéricubes. Les apéricubes, c'est la vie, en vrai. Et jamais tu servirais des apéricubes dans un dîner, tu vois, Fred. Et c'est dommage. Parce qu'on aime tous à l'apéricubes. Oui. Regardez la petite question dans l'apéricube.
C'est un petit plaisir.
Oui, c'est le petit plaisir de la vie, évidemment. Rémi Barré, apéro dînatoire ou dîner classique ?
S'il faut choisir ses dîners classiques.
Bah oui.
Mais c'est vrai, je ne suis pas étonné.
Mais non, mais t'apprécies beaucoup plus que tu manges.
Mais merci, tu
prends de tout, tu goûtes un peu de moment, tu sens même plus les goûts. Enfin, c'est.
Si c'est le foie gras de Jérôme Lavrieux avec son pain poilane aux truffes.
Une fois que t'as pris deux morceaux de toast de foie gras.
J'habite en Dordogne.
Oui, bon.
Non, mais c'est juste que vous goinfrez quand vous avez un apéro devant. Il faut vous retenir un peu, les gars, quand même.
Non, c'est vrai qu'on se goinfre. L'apéro dînatoire, normalement, tu te goinfres un peu, ça, c'est vrai. Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Dîner classique ou apéro dînatoire, Rémi ?
T'es perdu, Frédéric. C'est l'apéro dînatoire qui l'emporte pour 55% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
C'est à l'image de notre société, la culture de la flemme.
Je ne suis plus adapté à ce monde.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal, tout à l'heure de 9h à midi. 3 GG vous attendent en direct sur RMC, RMC Story pour du débat, pour de la discussion. Les 3 GG, le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy, le cheminot de Vierzon Bruno Poncé et la coach de vie Joël Dagosséry.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
RMC Gold n'est pas en FM ni en DAB+.
Vous voulez écouter RMC Gold dans votre voiture ? Téléchargez l'appli RMC. Connectez votre téléphone à votre véhicule en USB ou en Bluetooth.
Lancez l'appli RMC, le lecteur RMC Gold est sur la première page. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Maintenant, profitez du meilleur des années 80 et 90.
La semaine prochaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public les 20, 21 et 22 juin. Infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, la semaine prochaine, avec RMC.
Aujourd'hui, c'est vendredi 13.
Sur RMC, gagnez jusqu'à 13 000 euros.
Pour jouer, envoyez chance par SMS au 732-16. Chance au 732-16.
Aujourd'hui, provoquez la chance sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC. C'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Le meilleur de l'actu sur RMC, on démarre avec Apolline Matin. Comment expliquer le passage à l'acte dans le drame de Nogent ? Ce drame survenu lundi à Nogent-sur-Marne. Le procureur de la République a déclaré hier que le suspect de ce meurtre, un collégien de 14 ans, n'avait exprimé aucun regret ni aucune compassion après son acte. Un passage à l'acte peut être lié à un problème de frustration masculine, selon le psychanalyste Pascal Neveu, invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
Alors, on observe de plus en plus une frustration des jeunes garçons, peut-être dans une difficulté par rapport à leur masculinité, à leur virilité. Il faut observer vraisemblablement qu'il n'y aurait eu que des surveillantes femmes. Il n'y a pas d'hommes surveillants dans cet établissement. Est-ce que cette répression qui a eu lieu, cette réprimande qui a eu lieu le vendredi, l'a renforcée,
l'a vécu comme
un gros drame également, est-ce que ça l'a renforcée dans une conviction que les femmes ce ne sont pas des personnes bienveillantes et qui les empêchent de vivre leurs pulsions et puis leurs désirs affectifs. Dans 98% des cas, ce sont des garçons qui passent à l'acte.
Alors après, c'est vrai que tout le monde essaie de comprendre comment ce gamin de 14 ans a pu passer à l'acte et a pu poignarder cette surveillante de 31 ans à nos gens dans la Haute-Marne. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez inexplicable. Jérôme Lavrieux, on écoutait le procureur hier qui disait que ce gamin n'avait absolument aucun sentiment, aucune compassion après son acte. Alors effectivement, on invite tous des psychanalystes, etc., mais c'est compliqué, quoi.
Et si j'ai bien lu, il était même référent anti-harcèlement. Exactement. Dans son établissement.
Il avait été choisi par ses professeurs.
Donc, et Elisabeth Borne, quand elle s'est rendue sur place le jour même des faits, elle a rencontré l'équipe pédagogique et elle est ressortie en disant qu'il était particulièrement bien intégré.
Exactement.
Dans son collège.
Donc, tout comme ses parents d'ailleurs.
Oui.
Toutes les explications du monde et les tentatives d'explication, là on ne sait plus où en venir. Aller me trouver une explication fumeuse, de dire c'est parce que toutes les surveillants étaient des surveillantes qu'il y aurait un problème. C'est pas parce que tu mets une cravate rayée des années 70 que t'es un mauvais psychanalyste, mais quand même, là, il va falloir arrêter, faut se poser.
Après, c'est le boulot des psys d'essayer de trouver des explications. Hein.
Ouais, le boulot des psys, c'est de trouver une explication quand on a fait une psychanalyse ou une étude psychiatrique de la personne en cause, pas à distance comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'il va falloir faire.
Parce que
un jour ou l'autre, ce jeune être humain. Sera amené à sortir de prison. Donc il va falloir. Je vous l'annonce, un jour ou l'autre,
il
va sortir de prison. Il sortira de prison, mais il ira en établissement psychiatrique. Mais c'est pas un objectif dans la vie. Il va falloir prendre en compte les choses. Quid de la consommation forte ou non de réseaux sociaux, de jeux vidéo destructeurs, etc.
Ouais.
Donc il y a aussi des gens qui ont les fils qui se touchent à un moment ou un autre. Hein.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il faut qu'on arrête de vouloir expliquer l'inexplicable ?
Oui, en tout cas, on ne peut pas expliquer aussi proche des faits. Là où cette personne qui était interrogée à la télé a raison, c'est que c'est vrai, la majorité des violences, elles sont commises par des hommes, et d'ailleurs, il y a une majorité d'hommes en prison. Mais en revanche, et là, je me réjouis que sur ce plateau, on dise qu'on ne peut pas donner d'explication sur un fait qui vient de se produire immédiatement. Ça va demander énormément de travail, justement, un travail d'analyse psy approfondie, un travail d'enquêteur. On ne saura probablement pas tout de suite, et donc c'est bien d'attendre. Et même si on a une explication pour ce cas-là, ça veut pas dire qu'on va pouvoir généraliser à toute la société. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, parce qu'on a déjà des politiques qui commencent à sortir des mesures comme si on pouvait tirer des conclusions de ce qui s'est passé, alors qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'on ne peut pas. Donc, plutôt que de se précipiter, de vouloir annoncer des choses avant qu'on ait la moindre explication, laissons les experts faire leur travail. Et ensuite, sur la question de la violence masculine, ça fait bien longtemps que c'est connu, documenté. On peut tout à fait se tourner vers ce sujet-là, mais n'utilisons pas un fait divers sur cette question.
Frédéric Mal.
Il y a une chose qui s'appelle le mal. Le malin, le diable. Il y a plusieurs. Voilà. Il y a des gens qui sont inspirés par des forces obscures. Il y a des gens qui sont en dehors de l'humanité. Moi, ce qui est très choquant, c'est quand on a écouté, comme j'ai pu écouter hier le procureur, c'est aucun regret. Il ne s'est même pas dit j'ai eu un coup de colère. Non, il est froid. Aucune empathie. Il y a des gens qui ne sont pas comme les autres êtres humains, qui sont inspirés par quelque chose de différent des autres, pour qui la vie humaine ne représente rien. Le type a tué une femme, il a tué sa propre vie, et ça ne lui fait rien.
Et celle de ses parents.
Et celle de ses parents.
Et des proches de la survie.
Et les gamins qui ont vu, hein, parce que on n'en parle pas de cela, mais dans quel état vont être les gamins qui, à 14 ans, ont vu un meurtre d'un des leurs sur une surveillante? Non, mais les dégâts sont incroyables. Mais il y a des choses qui ne peuvent s'expliquer que par l'absence d'humanité totale.
Voilà. Ou par du long terme, voilà, il va être suivi par des psys. Ouais,
la psychiatrie.
La psychiatrie. Ah ouais. Et puis après, on aura des réponses. Peut-être là, il est en train de parler, il est mis en examen. On va voir si à un moment, il se montre un peu plus loquace.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le mal aussi.
Oui, mais justement.
Il y a des gens qui sont naturellement mauvais. Ouais,
enfin, une
mal.
Fois,
le mal existe.
J'entends pourquoi ce genre d'explication, ça te rassure, mais en fait, la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Et on a beaucoup parlé de la série Adolescent, qui montre justement une histoire de crime. Et en fait, tout n'est pas aussi binaire. On peut avoir un enfant qui est aimé de sa famille et qui vrille. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce serait rassurant si oui, il y avait le mal et on pouvait tout mettre sous
binaire.
Le tapis.
J'ai pas dit que c'est binaire.
Mais la vie est plus compliquée que ça, Fred.
Non, mais moi, pardonne-moi, je termine là-dessus.
Ah, mais tu as le droit
Je crois que le mal existe. Il y a des gens qui sont inspirés par le mal. Je suis désolé. Et on en rencontre. Et là, c'est un exemple. Voilà.
Les GG, ce matin sur RMC. Bah tiens, ça va faire plaisir à Anne-Sophie Saint-Père. Faut-il taxer les gens les plus riches pour résorber la dette de la France? Deux députés de gauche qui se sont inspirés des travaux de l'économiste Gabriel Zucman proposent d'instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des 1800 foyers les plus riches. Un dispositif qui les empêcherait de faire de l'optimisation fiscale et permettrait de récolter plus de 20 milliards d'euros. Une belle façon surtout de les faire fuir pour l'entrepreneur Emmanuel de Villiers.
L'essentiel de ces fortunes considérables est dans l'outil de travail, ce qu'on appelle l'outil professionnel, c'est-à-dire dans les entreprises en titre. Eh ben, on ne peut pas s'acquitter. Tu veux forcer les gens à vendre leur entreprise, à les vendre à l'encan, à la bourse. Les gens riches dont on parle, ils ne sont pas plus cons que la moyenne. Généralement, ils sont parfois plus doués. Ils vont foutre le camp, ils vont prendre leur valise sans solide.
Ils vont attendre se faire.
Et salut la compagnie. Et votre effort fiscal, vous allez vous le mettre où je pense, parce qu'il n'y aura rien du tout.
Votre
ils seront en Suisse, ils seront en Angleterre, ils seront en Belgique, ils seront aux États-Unis.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut taxer les plus riches dans notre pays pour résorber la dette?
Non. Il faut dépenser moins que ce qu'on fait rentrer comme argent. Ben, si taxer le plus riche ou pas riche, le plus de gens, permettait d'avoir un budget excédentaire, des services au public fantastiques, des services sociaux extraordinaires. Mais on serait, enfin la Suisse, ce serait des smicards par rapport à nous. On serait le paradis terrestre. On est le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Et quand tu fais un sondage, les gens sont insatisfaits de rien du tout. On parle de 1800 familles. Tu sais, t'as 1800 billets d'avion, tu pars. Je vous rappelle que l'Allemagne s'en sort au point de vue...
C'est pas facile de partir.
Oui, enfin, l'Allemagne s'en sort au point de vue industriel parce que quand tu es propriétaire de notre entreprise, tu peux la transmettre à tes enfants, etc., et en garder la propriété. En France, quand il y a quelqu'un qui commence à être surtaxé, la seule chose qui, quand il approche des droits de succession, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de la vendre. Qui est-ce qui l'achète? Un fonds de pension ou des investisseurs chinois? 4 ans après, on ferme la boîte. On n'a plus de riches. Parce que le mec est parti ailleurs et on n'a plus d'employés.
Il y a un mécanisme qui exonère les entreprises.
Est-ce qu'on va réussir à tondre un œuf? Ben non, un œuf, tu n'arrives pas à le tondre, tu le casses.
Anne-Sophie Saint-Père.
Alors évidemment que je suis pour. En fait, c'est. C'est une mesure qui rapporte 20 milliards d'euros. On a besoin de 40 milliards, ça résout déjà la moitié du problème.
Combien de fois?
Encore une fois, ça ne veut pas dire. Sur la question de la fiscalité de la France, oui, les classes moyennes payent des impôts, les classes supérieures payent des impôts. Par contre, ce taux-là, il chute sur les 0,01% qu'on essaye de cibler là. Sur la question du départ, c'est un souci, sauf que dans la loi, c'est prévu. Ils devront. Alors déjà, le taux de 2% fait que c'est quand même assez peu douloureux. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Ça ne va strictement rien changer à leurs conditions de vie au quotidien. Et ensuite, cet impôt, il serait dû dans les 5 ans après le départ.
Si ton patrimoine, c'est ton patrimoine de société. Par exemple, si c'est des parts de société, typiquement, tu ne les as pas touchées.
Ouais, tu reçois des dividendes. En fait, le fond de cette mesure, c'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mécanismes d'optimisation possibles. Donc, ces gens-là vont se faire verser des capitaux via des holdings qui vont partir et ne pas être fiscalisés. Cet impôt de 2%, il ne s'applique pas si leur patrimoine il est déjà taxé à hauteur de 2%. Donc, ça va simplement bloquer les mécanismes d'optimisation fiscale qu'ils font en expatriant leurs revenus vers des holdings. Donc, c'est vraiment... Ça ne changera rien à leur vie. Aujourd'hui, toutes les mesures qu'on propose, ça va étouffer les Français. Ça va étouffer les services publics. Là, on parle de 1800 foyers qui sont dans un confort absolu. Mais ils ne vont même pas perdre un mètre sur la taille de leur yacht. Donc ça ne va rien changer. Et sur la question du fait qu'ils pourraient quitter la France, il y a un mécanisme. tourisme, ils seront redevables de cet impôt pendant 5 ans. Donc franchement, pour 2%, ça vaut probablement pas le coup de partir. Et je rappelle qu'aux États-Unis, quand vous êtes né aux États-Unis, vous devez vos impôts toute votre vie là-bas. Donc il y a des mécanismes pour empêcher les gens de fuir et de ne pas payer d'impôts. Et nous, en France, on est tellement sympa avec les millionnaires qu'on est le troisième pays avec le plus de millionnaires après les États-Unis et la Chine. Ils peuvent contribuer. Et d'ailleurs, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Chacun contribue selon ses moyens. Aujourd'hui, les classes les plus pauvres, les classes moyennes et les classes riches contribuent beaucoup plus que les ultra-riches.
Après, il y a aussi un autre truc, c'est plutôt que de taxer sans arrêt, changeons la loi. En fait, le problème, c'est que là, quand on parle d'optimisation fiscale, encore une fois, c'est légal. Si on changeait la loi, on serait pas obligé de mettre des taxes par-ci, par-là. C'est du bon sens, en fait.
Ce changement de loi, il est assez malin pour justement rapatrier les revenus qui partent dans les holdings. C'est hyper difficile. Enfin, je veux dire, il y a quand même des avocats fiscalistes très talentueux, j'en connais, qui sont tout à fait capables de faire des montages. Ce mécanisme-là, il est assez malin parce qu'il permet d'éviter ces montages.
Les GG ce matin sur RMC, pour ou contre l'interdiction des torses nus dans l'espace public, bien que ce soit non interdit par la loi, c'est autorisé. De plus en plus de stations balnéaires prennent des arrêtés municipaux afin d'interdire aux hommes d'être torse nus en dehors des plages. Une façon de répondre à un sondage IFOP qui révèle que 7 femmes sur 10 sont choquées à la vue d'un homme torse nu, et que louait ce matin dans les GG la militante écologiste Flora Gabali.
Je pense que l'espace public est un espace de domination des hommes sur les femmes, et que les hommes prennent beaucoup de place dans les rues, dans l'espace public. À Paris, par exemple, on les voit vraiment prendre leur place et prendre leur espace. Et si on imagine les femmes torse nu, imaginez une femme torse nu, ça s'appelle une fémène, c'est illégal et ça se fait embarquer. Oui. Et ça a une revendication politique derrière. Donc un homme torse nu, il n'y a pas de raison qu'il ait ce droit supplémentaire aux femmes. Donc je pense que tout le monde met un t-shirt dans la rue, et à la plage, chacun fait ce qu'il veut.
Fred Hermel, est-ce qu'il faut interdire les hommes torse nus dans la rue ?
C'est pour une question de décence, tout simplement. C'est pas très... Et puis on n'est pas tous pareils devant la nature.
Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut autoriser les jambes beaux torse nus.
Moi, je veux bien, parce que je pense que les réflexions de plein de filles, elles sont contre, mais bon, si c'est les marchands, elles sont pas contre, à mon avis.
Les
nageurs, ils sont sublimes. Moi qui ai un peu de bide, etc. Non, sérieusement, c'était de l'humour, bien entendu. Non, sérieusement, c'est pas très élégant, c'est pas très beau. Puis tu rentres dans un resto. Moi, je suis désolé, je vais manger dans un resto.
Ça, t'as pas le droit.
Ou même dans la rue, ou t'achètes une glace, t'as quelqu'un en torse nu derrière toi, alors tu fais la queue. Non, je suis désolé. C'est pas qu'une question de d'hommes, femmes, etc. C'est simplement ou de domination masculine, comme j'entends. Simplement parce que c'est un peu dégueulasse de se balader torse nu.
C'est
une question de décence. Chaque endroit a ses codes. C'est comme ça qu'on arrive à vivre en société.
Jérôme Lavrieux, dans vos gîtes, par exemple, les gens se battent torse nu.
Ils vont à la piscine, ils sont torse nu.
Oui.
Ils vont au spa. Moi, j'ai même mis des peignoirs. Ils se baladent en peignoir. Ils peuvent y aller.
Peignoir, c'est pas torse nu, ça n'a rien à voir.
Non, mais s'ils veulent y aller torse nu, ça ne me dérange pas. Mais ils sont pas sur un espace public. C'est eux qui louent une maison. Ils y font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas la police. Je veux savoir s'ils dorment tout nu ou avec un pilou. Je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. C'est chez eux. Mais sur une plage, on peut pas être à la fois contre le burkini et interdire aux gens de se baigner torse nu. On va pas obliger tout le monde. Sur la plage, c'est la plage.
Oui, mais en dehors.
Tu sors de la plage, tu mets un t-shirt.
Voilà.
Pour une seule raison fondamentale, et je suis d'accord, que Dieu me pardonne, je suis d'accord avec une écologiste pour une fois. Mais
attention quand même.
Mais il viendrait à personne de dire qu'une femme peut se balader les seins à l'air dans une rue, etc. Je trouve profondément sexiste qu'on puisse réfléchir à dire oui, mais un mec, lui, c'est normal, il a le droit. Les seins, c'est pas un organe sexuel. Je vois pas pourquoi. C'est l'image qu'on projette dessus. Non, c'est pas un organe sexuel.
Soit on autorise à tout le monde, soit on interdit à tout le monde.
Et puis si tu veux vraiment te balader à poil, tu le fais chez toi. Et si tu veux faire des vacances entièrement à poil, il y a la France est la première destination pour le naturisme en Europe. Donc tu peux très bien y aller. Et là, c'est le textile qui va être interdit. Sauf pour les employés, parce que j'ai appris que les employés dans les camps naturistes, le droit du travail les oblige à être habillés.
Oui, et puis de toute façon, ils n'ont peut-être pas envie de se mettre à poil.
Quand tu fais la queue à la cafétéria, ça doit être chiant.
Bon, Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il sanctionner plus durement le trafic de cigarettes? Une étude commandée par une marque de cigarettes révèle que 40% du tabac vendu en France provient désormais de marchés parallèles. Un chiffre en augmentation de 60% en 5 ans, dû au prix toujours plus élevé pour Philippe, auditeur RMC dans les Landes, qui s'approvisionne à l'étranger.
Bon, c'est un choix d'arrêter là. Moi, je suis passé à l'électronique, mais ça fait 2 semaines. Mais sinon, avant, j'allais en Espagne les acheter, puisque je suis à 1h30 d'Espagne par autoroute. Ça me revenait beaucoup moins cher, puisque, comme j'ai mis un message, c'était en France, c'est 300 euros la cartouche de tabac à rouler, et en Espagne, c'est 92 euros.
Ah oui, donc en effet, le choix, il est vite fait quand même. Hein.
Ça, et puis en même temps, je faisais des bidons de gasoil, et voilà, sur 2 ans, j'ai fait 2000 euros d'économie. Quoi.
Évidemment, Jérôme Lavrieux, quand on entend cet auditeur, on comprend bien que le problème, il est insoluble. Parce que là, ce qu'il fait, aller se fournir en Espagne, c'est légal, en fait.
Oui, mais pour moi, le problème, il est très soluble, au contraire.
Ah bon ?
Parce que, quelle que soit la différence de prix entre un pays de l'Union européenne ou l'autre, je rappelle que le tabac ne fait pas partie du marché unique. Chaque pays est libre de fixer les taxes comme il le souhaite. Ah oui. Mais moi, je regarde juste une chose. Et je m'en fous qu'ils aillent acheter ailleurs, etc. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que les politiques publiques amènent à une baisse de la consommation du tabac ? On n'a jamais si peu fumé en France. Dans l'histoire post-Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais si peu fumé en France. On n'a jamais si peu fumé chez les moins de 25 ans. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que le corollaire de
tout
ça...
Oui, parce qu'on ne prend pas en compte justement le tabac illégal.
Non, non, je ne parle pas d'achat. Non, non, je parle des études sur la consommation, quelle que soit l'origine de la clope que tu as au bout du bec. Si tu l'as payé, fait venir en import ou je ne sais pas quoi. On n'a jamais si peu fumé. Et c'est depuis qu'on augmente fortement le prix du tabac acheté en France, qu'on a une baisse de tout ça. C'est depuis qu'on interdit de fumer dans de plus en plus d'endroits qu'on a une baisse de tout ça. Et donc, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais ça fonctionne, ça porte ses fruits, et ces gens-là nous rendront service en disant dans 15 ans. S'il y a un mec qui dit, moi, je m'en fous du cancer, je vais faire 200 km pour aller acheter ma cartouche de cigarette, puis je vais bien, j'allais dire niquer l'État, mais on n'a pas le droit de le dire, s'il est assez stupide pour le faire, tant pis. Mais ce que je regarde, c'est le résultat concret. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. On n'a jamais si peu fumé.
Mais après, c'est vrai que moi, je me souviens d'un auditeur qui nous disait qu'il faisait un Paris-Barcelone, un aller-retour Paris-Barcelone pour aller acheter ses 4 cartouches de cigarettes. Ouais. Et que de toutes les manières, avec des vols locaux, il s'y retrouvait. Est-ce que malgré ça, malgré le fait, Anne-Sophie, que 40% des cigarettes aujourd'hui en France le sont sur des marchés parallèles, est-ce qu'il faut continuer justement à augmenter le prix du tabac et à augmenter le nombre d'espèces où le tabac est interdit?
Alors oui, moi je rejoins le fait que tant que ça permet qu'il y ait plus de gens qui arrêtent de fumer, il faut continuer. Enfin, c'est vraiment un calvaire la cigarette et toutes les maladies qui s'en suivent, parce qu'on pense au cancer, mais il y a les maladies cardiovasculaires. Donc c'est politique, pour l'instant ça indique que ça marche. Peut-être qu'on atteint un plafond, qu'il faut aller vers d'autres choses. Il faut aussi avoir des solutions d'accompagnement, parce que c'est pas facile d'arrêter de fumer. Après, pour la question du trafic, moi je fais une petite différence entre la personne qui va chercher pour sa propre consommation des cigarettes, bon, c'est aussi toute une logistique quand même, ça devient un peu central, et les trafics beaucoup plus organisés, où là les sanctions existent. Et à mon avis, c'est pas l'enjeu, c'est pas la dureté de la sanction, parce qu'elles sont déjà dures, c'est la disponibilité des enquêteurs et de la police pour remonter ces filières. Parce qu'on parle, on est toujours sur le bout de la sanction, mais en fait, il y a déjà des sanctions dures pour pas mal de choses qui ne sont pas forcément appliquées, parce qu'en fait, il y a des effectifs qui sont réduits sur des enquêtes au long cours visant à démanteler des filières.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, combien de jours faudrait-il vraiment prendre idéalement lors des vacances d'été? En moyenne, les Français prennent 15 jours de congé l'été, mais les scientifiques ont étudié quel était le nombre de jours idéal qu'il fallait prendre pour se sentir heureux. Les résultats de cette étude avec Charles Magnin.
Quand on part en vacances, on atteindrait un pic de bonheur et de bien-être au bout du 8e jour. Ce serait une sorte de plateau, le summum de la détente. Vous ne serez pas plus heureux au bout de 15 ou 20 jours de vacances, pas plus heureux qu'au 8e jour.
Mais pas
pire,
moins.
Pire,
mais pas moins.
Pas moins, mais selon les chercheurs, si justement, le pic du bonheur commence à redescendre à partir du 10e jour. Ça commence à redescendre, c'est au bout de 10 jours que le boulot vous revient à l'esprit, qu'on commence à penser à tout ce qui nous attend au retour. Verdict, la durée idéale pour des vacances réussies serait de 8 à 10 jours, mais attention,
Tous les mois.
Voilà, les chercheurs précisent, ce ne sont pas les vacances les plus longues qui font le plus de bien, mais c'est leur régularité des séjours de 8 à 10 jours, mais plusieurs fois dans l'année, voilà ce qui serait parfaitement efficace.
Ou la semaine de 4 jours pour avoir 3 jours chaque semaine.
Ça faisait longtemps.
Fred Hermel, vous partez pas beaucoup en vacances, Fred?
Pour des raisons de travail, en fait, je prends un mois l'été.
D'accord.
Donc c'est un mois de déconnexion totale. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça. Bah après c'est question par rapport au foot parce que c'est l'arrêt de la saison et tout ça, donc moi
pour un mois c'est idéal pour vous.
Pour moi, enfin parce qu'en fait j'ai l'habitude et mais c'est-à-dire que l'été penser à 10 jours non, c'est pas assez.
Ah oui, mais c'est 15 jours en moyenne.
Oui, je sais bien, mais moi il me faut plus longtemps. Et après je prends une semaine à Noël et après c'est vrai que dans l'année j'en prends pas beaucoup.
Anne-Sophie Saint-Père.
Bah moi je suis un peu dans le même cas, c'est-à-dire que pour des questions de boulot, faut que je concentre tout sur l'été, donc je pars un mois l'été, mais franchement quand j'arrive juste avant mes vacances, je suis épuisée. Du coup, je serais plutôt pour 15 jours 3 semaines l'été puis quelques semaines de temps en temps dans l'année pour pas arriver au bout du rouleau à la fin juillet quoi.
Jérôme Lavrieux, bah vous prenez pas de vacances, Jérôme, en fait.
Bah, même avant de louer des gîtes, j'ai pas souvenir de ma vie d'avoir pris, enfin, à part quand j'étais gamin, ouais. C'était le mois d'août, mais depuis que je travaille, j'ai pas le souvenir d'avoir pris 3 ou 4 semaines de vacances d'affilée.
Ah ouais ?
Alors, depuis que j'ai des gîtes, c'est réglé, parce que là, j'ai pas de souvenir d'avoir pris des vacances depuis 5 ans. Parce que vos vacances, c'est mon travail. Donc, moi, je suis très favorable au résultat de cette étude. Prenez chacun 8 jours, comme les enfants, toutes les 7 semaines, et venez dans mes gîtes. 70 millions de Français qui prennent 8 jours de vacances toutes les 7 semaines. Oui. Oh la vache, je vais cartonner.
Vous avez les dollars dans les yeux.
Je vais pouvoir en payer des impôts, je vais être content. Hein.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps. Car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on va tout de suite s'intéresser à la piste économique du jour. Bah oui, il y en a tous les jours aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est celle de conditionner les APL, les allocations personnalisées au logement, les APL donc des étudiants aux revenus de leurs parents. Aujourd'hui, Rémi, tous les étudiants, sans exception, peuvent bénéficier de cette aide et ça coûte cher aux finances publiques.
Ouais, selon son rapport, il s'agirait donc de modifier le mode de calcul de l'APL pour les étudiants en prenant compte les ressources parentales. Un recentrage en faveur de ceux issus des foyers modestes et de la classe moyenne. Voilà ce que dit le texte, car les chiffres sont assez édifiants. 45% des bénéficiaires d'APL étudiants, qui s'élèvent en moyenne à 100-150 euros par mois, ont des parents dont le niveau de vie fait partie des 30% les plus riches.
C'est-à-dire à partir de 2500 euros.
Exactement, ce qui représente un coût budgétaire pour l'État de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros annuels. Un constat qui fait écho aux propos tenus il y a un mois par Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1. Le chef de l'État avait alors déclaré qu'il y a des jeunes qu'on accompagne trop, qui touchent les APL alors que leurs parents ont les moyens de leur payer leur logement, alors que d'autres jeunes ont des parents qui n'ont pas les moyens de les aider ou ne veulent plus les aider. À l'heure actuelle, environ 1 million d'étudiants touchent les APL en France.
Alors, conditionner les APL des étudiants aux revenus de leurs parents, bonne ou mauvaise idée, Jérôme Lavrieux.
Moi, je pense que ça devrait être le même système que pour quelqu'un qui n'est plus étudiant, qui est adulte et qui travaille, et qui a le droit aux APL. Les APL pour le quidam qui n'est pas étudiant, c'est en fonction des revenus. T'as le droit aux APL ou t'as pas le droit aux APL. Une fois que j'ai dit ça, le problème de la France, c'est la maladie de l'effet de seuil. C'est-à-dire que l'effet de seuil, la première victime, c'est la classe moyenne. Et tu peux être de la classe moyenne, c'est-à-dire la classe moyenne, hein, enfin, les riches, c'est 7%. Ouais. Qui gagne le plus. Donc quand on dit 30%,
c'est 2500 euros.
Ouais. Mais si tu as deux enfants qui vont chacun faire des études dans un endroit différent, ils font pas d'études ou ils font des études? Donc il faut. Ce genre de mesure, les premiers qui sont touchés, c'est les classes moyennes. Donc il faut éviter l'effet de seuil. Sur le principe, oui, mais de l'art de l'exécution, il faudra qu'il soit subtil, ce qui n'est pas toujours le cas de Bercy.
Fred Hermel, est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Oui, plutôt. Oui, mais attention. Je pense qu'il faut multiplier les résidences universitaires. Moi, j'en ai bénéficié. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Et là, c'est vraiment sur les critères sociaux. Et aussi ne pas pénaliser les étudiants qui, comme moi, commencent à bosser.
Parce que moi, j'ai ma première année de fac à Lille, la résidence Albert Camus. C'est une nostalgie. J'y avais droit la première année, et puis j'ai commencé à bosser, hein, à faire des petites piges, etc. Et là, et ben, résultat, j'ai perdu. J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu le droit d'aller en résidence universitaire.
Quelle époque, de seuil.
Ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire que, franchement, quand. Oui, il faut. Les parents aisés, etc. Les enfants n'ont pas à toucher de l'argent. Mais
2500 euros, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne touches pas les APL, tu ne touches pas de bourse.
Oui, mais le critère, après, on peut remonter un petit peu, quoi. Je veux dire, il peut y avoir un critère, etc. Mais sincèrement, ne pas pénaliser ceux qui bossent, quoi. Enfin, franchement, on dit, ah, les jeunes, il faut bosser, etc. Il y a plein de jobs d'été, etc. Mais ça va vite, en fait. Hein. Tu bosses un petit peu, tu bosses tes deux mois d'été, tu bosses un peu le week-end pendant l'année, et bien rapidement, tu n'entres plus dans les critères pour la résidence universitaire, qui est super. Alors après, c'est une chambre de 10 mètres carrés, c'était des douches communes, etc. Mais enfin, bon, j'étais très heureux. Hein. Ouais, puis j'ai rencontré des gens du monde entier. Enfin, c'est une période fabuleuse de ma vie. Mais s'il vous plaît, ne. Oui, contrôlons ce genre de dépenses, mais ne sanctionnons pas ceux qui bossent et qui gagnent un petit peu d'argent.
Anne-Sophie Saint-Père, tout à l'heure, on disait l'État ne taxe pas assez finalement les plus aisés, les plus riches. Bon, bah là, c'est un peu ce que l'État tente de faire. Mais est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça vous semble logique finalement de pénaliser des étudiants dont les parents gagnent 2500 euros par mois?
Ben oui, justement, pour moi, c'est une question de revenus. Alors déjà, les étudiants dont mes parents sont assujettis à l'IFI n'ont pas droit aux APL, intéressant. Ensuite, moi, le seuil de 2500 euros, il me paraît extrêmement bas, parce que effectivement, si vous avez deux enfants qui ont été pris dans des facs qui sont loin de chez vous, vu le prix du logement, c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, il y a assez peu d'accès à des chambres d'étudiants pas chères aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être plus problématique qu'autre chose. Ensuite, moi, je suis plutôt pour être vigilant sur la répartition des aides. Mais si on prend l'APL des étudiants, ça coûte entre 3 et 500 millions d'euros, je crois. Voilà, si on prend les aides aux entreprises, on est entre 150 et 200 milliards. Et pourquoi ce gouvernement, où il y a des millionnaires, où on a un soupçon qu'ils font de la politique plutôt pour eux parce qu'ils ont des parts dans des entreprises, pourquoi ils ne proposent pas de conditionner les aides aux entreprises à la limitation des salaires des patrons, des actionnaires? Quand on a des actionnaires qui sont multimillionnaires et qui touchent en plus des aides d'État, ben là, on peut se dire qu'on peut faire des économies de ce côté-là plutôt que sur les étudiants.
Alors, on va revenir sur les APL avec François qui nous appelle de Narbonne. Il est kiné. Et François, ben, il a deux jumeaux qui vont aller à la fac l'an prochain. Bonjour, François.
Oui, bonjour. Bien, je rentre exactement dans ce processus de j'ai deux enfants qui passent le bac là, la semaine et les 15 jours. Et l'année prochaine, ils vont en fac, en Parcoursup. J'en ai un peut-être qui ira à Marseille et l'autre à Toulouse.
D'accord.
J'ai une troisième fille qui a 15 ans.
Ouais.
Et bon, je me plains pas je suis quand même personne de ce qu'on appelle dans la classe moyenne aisée.
Vous gagnez combien, François?
Je déclare avec mon épouse dans les 80 000 euros par an.
D'accord, donc ça fait d'accord, 7 000 euros par mois avec votre épouse. Hein. D'accord.
Oui, mais nous avons trois enfants rapprochés. Mmh. Et je vous assure que nous avons enlevé parce qu'on remet dans la tranche juste au-dessus, nous avons enlevé les allocations familiales, nous avons enlevé nous avons pas le droit aux CROSS ou aux bourses, etc. Parce que nous sommes dans la tranche juste au-dessus. Et maintenant, vous parlez des APL, il faut arrêter, quoi. Parce que bon, nous, les impôts, on les paye. Oui, sans parler des quotients, du quotient dans les impôts, les tranches de quotient, vous savez, familial, ça suffit, quoi.
Oui, parce que quand vous dites que vous gagnez 7000 euros à deux, c'est pas net, évidemment.
Non, si, net.
Ah, d'accord, net, d'accord. Net,
oui, mais je vous assure que ça va vite avec des enfants. Regardez, là, je vais en avoir pour combien par enfant?
Et vous avez calculé, justement, François?
Hein, bien, moi, je n'ai au moins pour 1000 euros par enfant, facile.
Ouais, d'accord.
Et ils vont devoir travailler, et ils vont devoir les études, ça se paye, etc. Mon fils qui doit travailler cet été parce que bon, parce que j'ai pas le moyen de lui payer un véhicule quand même si vous me dites 7000, les impôts, je les ai, quoi.
Ah, moi je dis rien.
Oui,
hein,
oui, 7000 euros imposables, bien sûr.
C'est-à-dire, attendez, c'est le net après impôt ou
non, avant impôt? Non, avant impôt.
Ah, bah c'est ce que je vous disais.
Avant impôt, excusez-moi, avant impôt.
D'accord,
net.
Voilà, net il vous reste combien, net après impôt?
Alors moi, j'ai 10 000 euros d'impôt à peu près, 10 ou 12 000 euros d'impôt l'année.
Il reste 6 000.
D'accord, il vous reste 6 000, mais enfin, votre épouse aussi a des impôts, donc grosso modo, il vous reste.
Non, entre les 4... deux, des 40.
Ouais, d'accord. Mais voilà, et vous dites, ça va me coûter 1 000 euros par enfant, et évidemment, vous n'avez aucune allocation. Et les APL, elles auraient été de combien?
Et oui, j'habite pas dans une ville comme Montpellier, où j'habite dans une ville où il n'y a pas de faculté, enfin, il y a une petite faculté.
C'est ça.
Voilà, donc.
Donc vos enfants sont obligés d'aller.
Évidemment, bien sûr, pas de crous, parce qu'ils sont dans la classe, bien, voilà, au-dessus. Ils n'ont rien du tout. Et je suis pas le seul à regarder qu'il y a des enfants qui sont en train de se déployer. Enfin, je suis dans une profession libérale, il y a des infirmières autour de nous, et je vous assure que c'est on est dans la tranche où voilà quoi.
Où c'est compliqué.
Et là, j'en ai deux, et dans deux ans, j'en ai une troisième.
D'accord.
Bon, c'est un choix, c'est bien, mais en plus j'ai de la chance parce qu'ils arrivent à faire des études, mais il faut les suivre quoi.
Bah merci beaucoup François, en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a également Audrey d'Adainville dans les Yvelines. Audrey, elle est, ça va vous faire plaisir, Jérôme Lavrieux, gérante de chambre d'hôte. Bonjour. Génial. Audrey.
Bonjour à tous, bonjour à l'équipe.
Bonjour.
Et Audrey, vous avez une fille qui a fait des études, c'est ça?
Exactement, donc nous on est vraiment dans la campagne des Yvelines. Ma fille l'année dernière a dû aller sur Paris pour poursuivre des études.
Ouais.
Donc bien évidemment, pas de bus, pas de transport en commun, gare à 15 minutes. On a dû lui prendre un appartement. Et on est un petit peu comme l'interlocuteur précédent, je crois que c'était François. On est tous les deux gérants de nos sociétés. Donc oui, on travaille énormément, on a des revenus, donc pas le droit au logement étudiant, pas le droit au panier repas de 1 euro.
Du Crous, ouais.
Donc on a dû trouver un appartement sur Paris. Donc oui, on lui a ouvert un compte CAF personnel. On s'est mis garant dans un appartement. Elle a trouvé un appartement qui nous revenait à 600 euros par mois. Donc effectivement, elle a le droit à la CAF. Parce que si on lui prenait pas d'appartement sur Paris, elle avait 2h15 de transport le matin, 2h15 de transport le soir. Elle ne peut pas travailler parce que tous les étudiants ne font pas 20 heures la semaine. Nous, elle était dans une école où elle faisait 32 heures la semaine. Et dans les écoles de mode, Dieu sait que le soir, il y a des travaux à fournir. Donc en plus, elle ne pouvait pas travailler. Et si on n'avait pas eu cette APL, étant donné qu'on avait déjà financé l'école, plus la nourriture, ce qui pour nous, c'est un gros budget dans notre foyer, elle n'aurait pas pu faire d'études, tout simplement.
Et Audrey, vous gagnez combien à peu près par mois?
Alors moi, gîte et chambre d'hôte, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement,
c'est pas pareil
on
tout
se
temps,
reverse un dividende à l'année. Mais nous, l'objectif, c'est d'être à zéro chaque mois. Donc voilà. Par contre, mon mari, lui, est gérant d'une société de bâtiments. Et par mois, il doit être environ à 8 000 euros par mois. Donc vous allez me dire que c'est des bons revenus. Mais effectivement, on a trois enfants.
Et comme l'auditeur précédent.
Et on a une qui passe le bac cette année. Donc on est encore dans la même spirale. Donc oui, on a trois enfants. On habite à la campagne. Il n'y a pas de transport. On est obligé d'être véhiculé. Donc on a deux voitures, parce que sans voiture on s'y arrive pas. Et même notre fille, on a dû investir dans une petite voiture sans permis pour une de nos filles, parce que c'était 1h05 de bus pour aller au lycée. Donc quand on vit à la campagne, en fait on a vraiment
Vous dites ma fille pouvait pas bosser parce qu'elle faisait des études de mode, mais en fait en vrai avec 4h10 de transport par jour, vous ne pouvez pas travailler en plus de vos études. Enfin, c'est pas possible.
Non, mais c'est pour ça des fois on entend les débats. Oui, mais les jeunes, ils doivent travailler pour financer. Oui. Je conçois tout à fait qu'ils peuvent travailler l'été, mais en semaine. Sauf si on a 20 heures de fac la semaine et qu'on se rajoute peut-être 10 heures la semaine de travaux à domicile, on a 30 heures la semaine. Oui, on peut peut-être se prendre un samedi, travailler 8 heures la semaine ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas du tout ce qui leur financera. Parce qu'on parle de l'appartement, mais on parle après de l'électricité, de l'internet. Nous, quand on a vu ce que coûtait l'appartement et qu'on a vu ce que coûtait après tout le reste, mais c'est énorme. Donc bien sûr, on fait des sacrifices pour nos enfants, mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix.
D'accord.
Pour les citadins, c'est peut-être plus facile, mais pour les gens qui vivent à la campagne,
bien sûr.
C'est plus.
Et oui, parce qu'évidemment, vous n'avez pas de fac, à Adainville dans les Yvelines.
Voilà. Et avec mon mari, on travaille beaucoup.
Mais je sais.
Enfin, voilà, il n'y a pas de. On n'est pas aux 35 heures. Hein.
J'entends. Merci beaucoup, Audrey, pour ce témoignage. On a également pas mal de messages sur l'appli RMC, Rémi.
Témoignages qui vont, en général, c'est ce que je reçois sur Direct Studio, dans le même sens que ce qu'on vient d'entendre. Mickaël nous dit notamment, décidément, tous les jours, une nouvelle coupe budgétaire. Mon fils est étudiant à Paris. Je suis pourtant aisé, mais je suis content d'avoir 180 euros d'APL pour lui, car je paye, je cotise. Et pour une fois, moi, mon fils, en l'occurrence, touche quelque chose.
Oui, bah c'est peut-être la fin, ça. Alors, les APL des étudiants conditionnés aux revenus des parents, bonne idée ou mauvaise idée?
Eh bien, contrairement à ce qu'on vient d'entendre là au 32-16 et ce que je reçois comme message sur Direct Studio, c'est une bonne idée pour la majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ils sont 59% à approuver cette idée.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel. Et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
RMC Gold.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on s'intéresse tout de suite à la désaffection du jour. Et c'est seul des jeunes pour les plats traditionnels. Écoutez bien ce chiffre, il est terrible. 28%, près d'un tiers des jeunes de moins de 23 ans n'aiment pas la blanquette. Alors que les plats de grand-mère sont plébiscités par les plus de 40 ans, les jeunes préfèrent les fast-foods à l'andouillette et au bœuf bourguignon. Rémi, faut-il s'inquiéter pour la cuisine de mamie?
Bah, il faut le croire, c'est en tout cas ce que dit cette enquête du magazine Le Point. Exemple, avec la blanquette de veau, tu l'as dit dans le livre « Dans la France sous nos yeux » paru en 2021. Les auteurs indiquent que, tu l'as dit, seuls 28% des jeunes nés entre 1996 et 2002 apprécient encore ce classique de la gastronomie française. Et c'est 12 points de moins que chez les personnes nées avant 1956, qui sont encore 40%.